Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussaou.
De la Codeco ont encore attaqué un site de déplacés en Ituri. Bilan, 3 morts, des maisons incendiées et des vaches emportées au village Ala dans le secteur de Walendupiti. Rencontre hier à Kinshasa entre la chef de la MONUSCO et le président du Sénat. Bintou Keïta a à l'occasion plaidé pour la prise en compte de la représentativité de la femme lors du traitement de la loi électorale à la chambre haute du Parlement. Dans la province de Latchopo, les arrêtés chez provinciaux portant attribution des titres ne seraient pas respectés par certaines personnalités. Nous en parlerons avec le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et président du comité consultatif provincial des forêts, François Batou. Bonjour à tous. Cette édition part de l'Ituri. 3 morts, des maisons incendiées et des vaches emportées. C'est le bilan des exactions commises par des groupes d'assaillants de la Codeco la nuit de lundi à ce mardi dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les victimes sont des déplacés installés à Ala et Krilut dans le secteur de Walendupiti. La société civile locale appelle l'armée à la vigilance car, selon elle, de nombreux assaillants sont en errance ces derniers jours en quête de nourriture. Martial Kizabiamongo nous fait le point.
Les premiers incidents ont eu lieu vers 20h locales au village Ngokani, dans le groupement Dzina, un secteur de Walendupiti. Ici, une centaine de familles de déplacés sont installées entre Ala et Krilut. Des sources sécuritaires indiquent que ces malfrats ont tiré des coups de balles dans toutes les directions avant que les forces loyalistes qui s'y trouvaient interviennent. Dans cette confusion, 3 personnes seront touchées par balles, dont 2 filles et un homme, rapporte la même source. Dans la même nuit, un autre groupe d'assaillants venu des Massi Kidi s'est introduit dans les villages périphériques du chef-lieu du territoire de Djougou. Ici, ils ont incendié quelques maisons, dont celle du président de jeunes de Djougou Centre, qu'ils accusent de collaborer avec les FRDC. Vers l'Adidjo, ces malfrats ont emporté 85 vaches. La poursuite engagée par les militaires FRDC a permis de les récupérer de mains de ravisseurs. Ces bêtes ont été restituées aux propriétaires à présence du chef du village. La société civile locale demande à l'armée de renforcer sa présence dans plusieurs localités où les assaillants en errance perturbent l'inquiétude de la population. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'évêque du diocèse de Butembo Beni condamne l'incursion d'un groupe d'une vingtaine de miliciens Maïmaï dans l'église de la paroisse catholique Reine des Anges, juste à la fin de la première messe pascale. La scène s'est déroulée à Bunyuka, dans la chefferie des Bachou, une dizaine de kilomètres à l'est de Butembo. Dans une interview accordée à la radio Moto au Butembo au Beni hier soir, Monseigneur Sikuli Paluku qualifie cet acte de sacrilège et appelle les services concernés à ouvrir et approfondir des enquêtes sur ces faits. Grâce à Mzati, nous en parle.
Ces miliciens munis d'armes blanches et à feu s'étaient introduits dans l'église où ils ont demandé à voir les ornements du prêtre et même le prêtre qui a célébré la messe. Par la suite, ils ont réussi à emporter uniquement les missels qui est le livre contenant les prières de la messe. La conséquence est que les chrétiens étaient en débandade. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, l'évêque de Butembo Beni, a fortement condamné cet acte.
Comme une très mauvaise nouvelle le jour de Pâques. Ça veut dire que ce groupe qui vient perturber les messes, ça peut pas être hasard. Ça veut dire qu'ils ont préparé leur coup et le fait qu'ils soient allés même jusqu'à l'hôtel, c'est déjà une profanation. Et emporter les missels, nous condamnons très fermement cette incursion au jour le plus sacré, le plus fondamental de notre foi chrétienne.
Cet événement rappelle à l'évêque l'enlèvement de 2 prêtres dans la même paroisse en juillet 2017 qui sont restés introuvables. D'où sa demande aux enquêteurs engagés à ce dossier de se servir de cette piste au cas où elle aurait un lien avec cette disparition.
Ça c'est le travail des enquêteurs. Au regard de ce qu'ils demandent, donc les objets liturgiques, c'est grave, c'est plus que sacrilège qu'ils se convertissent. Dieu pardonne.
Notons qu'un des miliciens a été tué par les FRDC qui étaient intervenus après que ce dernier ait envahi l'église. Butembo, grâce à Mzati Radio Kapi.
Ensuite, Kivu, dans les territoires de Fizi, 7 morts et 9 blessés. C'est le bilan officiel de la fusillade intervenue au large du lac Tanganyika hier. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 qui confirme cette information, un militaire des FRDC, gradé matelot, de l'unité des fusiliers marins, a pour des raisons personnelles ouvert le feu sur une pirogue motorisée. Cette embarcation quittait le port de Kazimia, dans la localité de Kazimia, groupement Basikalangwa, secteur Nganja, dans le territoire de Fizi. Après son forfait, le militaire meurtrier s'est volatilisé dans la nature. Il a été rattrapé plus tard et lynché par la population en colère. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu rassure la population du soutien de l'armée et recommande un climat de confiance et de collaboration entre la population et les services de sécurité. Le lieutenant Marc Elongo-Ijon au téléphone par Jean-Baptiste Ntonga.
Pour le moment, la situation depuis hier soir est que l'événement est vrai. Et pour ce qui concerne le militaire, il a été aussi lynché par la population. Donc le militaire est décédé depuis hier. Le bilan est qu'il y a eu 7 morts et 9 blessés. Le meurtrier décédé. Bon, qui va comparer? Le seul message, c'est un message de confiance. Le militaire a agi personnellement et son acte n'engage pas les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc la population doit toujours avoir confiance en son armée. Nous sommes là pour elle et nous continuerons à travailler pour elle. Si ce militaire s'est comporté tel qu'il l'a fait, c'est un acte purement personnel qui n'engage pas les forces armées.
La situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale et la lutte contre le tribalisme ont été au centre de la séance de travail hier lundi entre le président du Sénat, Modeste Bahati, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC a, à cette occasion, plaidé pour la prise en compte de la représentativité de la femme lors du traitement de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement. À ces sujets, justement, la responsable de la MONUSCO a félicité le président du Sénat pour la promotion de la femme au sein de son regroupement politique qui a proposé les femmes à plusieurs postes de responsabilité. Bintou Keïta est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une continuation de conversation. Et les sujets de l'heure que nous avons évoqués sont tout d'abord la question sécuritaire, avec la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans le Petit Nord, mais aussi la mise en œuvre de l'état de siège. Nous avons aussi abordé la question de la réforme de la loi électorale, où est-ce qu'on en est, et notamment aussi, puisque c'est une pièce maîtresse, au fait que les élections doivent se dérouler à temps et dans de bonnes conditions. C'est une pièce maîtresse qui est attendue par beaucoup et notamment par les femmes pour la question de la participation en représentation des femmes. Et nous avons abordé dans les éléments de conversation tout ce qui est relatif à la transition dans le Tanganyika, notamment avec, encore une fois, les questions de renforcement de la présence des effectifs militaires et policiers.
Bintou Keïta a en outre plaidé auprès de Modeste Bahati pour le traitement de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pendant la session parlementaire en cours, loi qui est d'ailleurs déjà inscrite au calendrier de la dite session. Au sud Kivu, dans le territoire de Fizi, 7 morts et 9 blessés. C'est le bilan officiel de la fusillade intervenue au large du lac Tanganyika hier, selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, et qui confirme cette information. Un militaire des FRDC, gradé matelot de l'unité de fusiliers marins, a pour des raisons personnelles ouvert le feu sur une pirogue motorisée. On va se rendre au Congo central. Une forte concentration des substances toxiques appelées benzène est découverte dans l'organisme des communautés habitant les villages aux alentours du site d'exploitation de la société pétrolière Perenco à la cité de Mwanda. C'est ce que révèle le rapport intitulé « Les cris des populations locales », rapport produit par l'ONG Ressources naturelles et développement RENAD, a publié hier lundi à Matadi. en croire Nicole Bila, coordinatrice de cette structure œuvrant pour la gouvernance dans les secteurs extractifs. Ces conclusions sont issues des analyses des urines et du sang prélevés dans ces communiqués et que RENAD a fait analyser par des spécialistes venus de Lubumbashi. On l'écoute au micro de Nana Ploesh Mambou.
Nous avons appelé le professeur Célestin Banza de l'université de Lubumbashi qui s'occupe du département de toxicologie. Nous avons fait analyser l'eau que les communautés consomment et ces analyses, il y avait les urines qui étaient prélevées, les sang. Les analyses ont montré qu'il y avait la présence de benzène à une forte dose dans les urines, les sang des communautés. De villages qui tombaient, Kinkanzi, Liawenda et Tiende, ce sont les villages que nous avons trouvés comme plus exposés par rapport à l'installation des équipements de l'entreprise comme les torcheurs, le puits, les tanks femmes. Dans les villages qui tombaient, il y avait des gens qui vomissaient le sang et qui en mouraient. Il y a beaucoup de choses et nous avons vu que tout ce que les communautés se plaignaient se trouvait parmi les effets de benzène dans le corps. Il y a des hémorragies sévères, les œdèmes rénales, il y a des avortements spontanés. Cette communauté qui vit ces violations de droits humains, c'est la population congolaise. La loi portant régime des hydrocarbures interdit les torchats des gaz. Mais pourquoi l'autorité n'interdit pas ça? L'autorité est restée indifférente et cette communauté est abandonnée à sa triste sort.
Au Nord Kivu, emmener les habitants de Goma à contribuer dans la promotion de la sécurité alimentaire, tel est l'objectif du projet agriculture urbaine que le consortium Kivu Solutions et l'ONG incubateur pour la santé, l'éducation et l'agriculture pour le développement vont exécuter dans la ville. C'est au bénéfice de 10 000 habitants selon les initiateurs, 80 personnes notamment déléguées de coopératives agricoles, ceux des organisations féminines, étudiants et chercheurs ont été informés sur ce projet dès son lancement hier lundi à Goma. Suivant à ces sujets, le directeur général de Kivu Solutions, le professeur Jackson Sebugunda, est au micro de Bernard Danyang.
Pour ces projets pilotes, nous avons 10 000 personnes ciblées. Mais si ça peut aller au-delà, nous ne pouvons qu'être heureux. Les gens vont s'inscrire sur nos plateformes, Internet, Kivu Solutions, iHead Africa, mais aussi ils peuvent s'inscrire au niveau de la faculté de sciences agronomiques à l'Unigom, à la Saint-Piécia. Les gens que nous allons avoir sont ceux qui seront formés et qui seront bénéficiaires des semences ou des composts. Nous ne pouvons pas seulement avoir des produits agricoles venant des villages ou venant des villes riveraines. Ici, en ville de Goma, il y a des produits que nous pouvons nous-mêmes produire et cela va aider la population à augmenter leurs revenus. Mais non seulement cela, lorsqu'il y a des catastrophes comme la pandémie, comme le volcan, où il y a rupture de stock et où les frontières sont fermées, nous sommes capables nous-mêmes de produire comme les produits maraîchers, les produits de base en pisciculture, les champignons, les petits poulaillers et ainsi de suite.
Dans la province du Maniema, après plus de 6 mois de rupture, l'unité nutritionnelle thérapeutique intégrée de l'hôpital général de référence de Kindu vient de bénéficier d'un lot important de lait thérapeutique pour la prise en charge des enfants malnutris. L'annonce a été faite hier lundi par le médecin directeur de cet hôpital, Dr Michel Djunga, remercie sa bienfaitrice, l'ONG Alima, et invite les concernés à se présenter à l'hôpital général de référence de Kindu pour bénéficier des soins. On écoute le docteur Michel Djunga au micro de Florence Kiza.
Je remercie le partenaire Alima qui nous a fait une donation constituée de lait thérapeutique pour les enfants malnutris et quelques autres molécules essentielles dans le cadre de la prise en charge des enfants malnutris et autres malades que nous pouvons trouver à l'hôpital. C'est peut-être un message d'appel aux parents qui ont les enfants malnutris. Là, je parle des kwashiorkor et de marasmiques. Donc, en général, les enfants malnutris, de les amener à l'hôpital général de référence de Kindu au niveau de l'unité nutritionnelle thérapeutique intégrée. Avec ces intrants dotés par le partenaire Alima, on peut soulager tant soit peu ces enfants. Donc ce n'est pas comme auparavant, on était tellement réduits pendant une longue période. Maintenant nous avons quand même quelque chose. Nous voulons que les enfants viennent bénéficier de ce qui est de leurs droits. C'est peut-être un rappel à notre gouvernement, tant national que provincial, de voir comment on peut relancer les bonnes habitudes pour la prise en charge de sa population.
l'actualité internationale.
En Centrafrique, 7 ans après sa création, la Cour pénale spéciale va juger ses premiers cas à compter de ce mardi. Cette juridiction hybride, composée des magistrats locaux et internationaux, a pour mandat d'enquêter et de poursuivre les violations graves de droits humains commises dans le pays depuis 2003. Les premiers accusés sont d'anciens miliciens du groupe 3R, accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Avec 10 morts, le bilan du Covid-19 s'alourdit à Shanghai. La ville confinée depuis les débuts du mois a annoncé ce mardi 7 nouveaux décès du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 10 le total des morts dans la capitale économique chinoise. La mairie avait fait état de ses 3 premiers morts lundi, un bilan étonnamment léger dans une ville qui dénombre chaque jour quelque 20 000 nouveaux cas de contamination. Cette faible mortalité interpelle d'autant que les taux de vaccination sont peu importants chez les plus âgés. Des responsables municipaux des services de santé ont indiqué le 17 avril que moins de 2/3 de plus de 60 ans avaient reçu 2 injections et moins de 40% une dose de rappel, indique l'AFP.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les détenteurs des titres forestiers dans certaines forêts communautaires crient à la violation de leurs droits dans les secteurs de Bekeni-Kondololi. J'y arrive. Les arrêtés provinciaux portant attribution des titres ne seraient pas respectés par certaines personnalités. Pour en avoir le cœur net, le gouverneur des provinces a diligenté une mission d'enquête sur terrain la semaine dernière, laquelle était conduite par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, en même temps président du comité consultatif provincial des forêts, François Batoubou. Il s'entretient à ces sujets avec Jacques Mkonkolé.
Monsieur le Président du Conseil consultatif provincial des forêts, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'effectuer une mission dans le secteur de Bekeni-Kondololé. Qu'est-ce qui l'a motivé et quel en est l'objectif?
C'est pour mener une enquête administrative et chercher à réconcilier les parties en cause dans les concessions communautaires qui étaient déjà implantées et qui avaient déjà eu les arrêtés, les autorisations de son Excellence, monsieur le gouverneur de province.
Donc la réconciliation, c'est l'objectif principal de votre mission?
La réconciliation, c'est l'objectif principal de notre mission pour qu'il y ait une harmonie qui pourra permettre à ce que ces structures puissent travailler conformément au terme de la loi.
Monsieur le Président, quel est le constat que vous avez fait au terme des échanges avec les différentes communautés?
Après avoir été en contact dans ces différents milieux, nous avions constaté que il y a la plupart des cas des membres de certaines communautés qui ne comprennent pas encore le rôle des concessions forestières communautaires. Encore les insuffisances sur la législation de la gestion de la concession forestière. Et c'est là où il y a un problème qui a créé un peu de défis dont nous sommes tentés de relever pour trouver des solutions idoines qui pourront permettre aux différents comités qui sont installés dans ces différentes concessions de mieux travailler.
Les autorités coutumières sont accusées d'immixtion dans la gestion des forêts communautaires aussi.
Oui, effectivement, il y a certaines autorités coutumières, même certains politiciens qui se sont impliqués dans cette mégestion. C'est puisque quelques-uns parmi eux sont ignorants de la loi. Ils ne maîtrisent pas les lois et ils sont en train de faire parfois aussi des abus de pouvoir. Et la violation de textes, c'est ce qui crée tous ces différents défis. Nous devons maintenant commencer à chercher comment à donner les instructions aux animateurs RIRO pour leur encadrement idoine et puis leur remise à niveau pour qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est une concession communautaire.
Ces insuffisances que vous avez épinglées engendrent des doutes dans le chef de la population sur l'efficacité des arrêtés provinciaux portant attribution des concessions forestières.
Il y a l'efficacité. Vous savez que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors, dans le premier aspect, la population coutumière n'étaient que des simples gardiens des espaces qui appartenaient à l'État à 100%. Mais aujourd'hui, l'État, dans sa bonne volonté, voudrait maintenant attribuer administrativement ces espaces qu'ils occupaient d'une façon coutumière pour les occuper d'une façon administrative et faire appliquer les différentes instructions pour une bonne gestion durable de ces espaces pour éviter la déforestation et la mauvaise gestion des forêts. Alors, par rapport à ça, il est question que les autorités coutumières, les autorités administratives, qui gèrent, qui travaillent dans ces parties où les communautés ont déjà eu des concessions, puissent être bien recyclés, de sorte qu'ils comprennent comment protéger ces forêts, comment encadrer cette population pour que la gestion durable de la forêt soit là.
Une autre question à éclaircir, c'est cette cohabitation qui risque d'être difficile dans certains milieux, notamment entre les autochtones et les allochtones. Qu'en pensez-vous, monsieur le président?
Déplacés par l'homme colonial depuis des décennies et qui ont été fixés ici, à cette période-là, l'homme colonial les avait donné l'espace. Et de cela, il y a les décennies. Tous ces gens-là que nous appelons allochtones aujourd'hui, par le simple fait qu'ils ont déjà vécu ici il y a des années, et surtout depuis après l'indépendance, ils sont ici, ils sont devenus des propriétaires de ces terres, leur confiées par l'homme colonial. Et la loi dit bien que tout citoyen congolais a la liberté de rester n'importe où à travers la République, et il doit jouir des mêmes avantages, droits et libertés comme tout autre Congolais.
Donc ils n'ont pas de droit à payer à ce qu'on peut appeler les autochtones.
Non, l'homme blanc avait déjà fixé des limites. Dans l'espace des autochtones, les allochtones avaient déjà eu des espaces leur confiés par l'homme blanc à l'époque. Dans ces espaces-là, leur confiés par l'homme colonial, c'est de leur droit. Là, ils ne paient rien. Mais s'ils cherchent à aller en dehors de ces espaces-là, c'est là où ils doivent s'attendre avec les autochtones maintenant. Mais dans les concessions leur laissées par l'homme colonial, non, là, ils ne paient rien.
Ils ont les mêmes droits que tous les autres.
Oui. Ils ont les mêmes droits que tous les autres puisque ça leur appartient depuis des décennies et des décennies.
Que doivent faire les détenteurs des titres forestiers lorsqu'ils constatent la violation de leur espace?
Lorsqu'il y a violation de leur espace par des tiers, ils ne doivent que recourir à l'État pour que l'État puisse leur sécuriser avec des garde-fous sur le plan des droits.
Monsieur le Président, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.